bonjour à tous.
Vous avez sûrement dû remarquer, ou vous avez dû vous rendre compte que la relation entre les êtres humains, c'est quelque chose d'assez complexe. Dans la vie de tous les jours, on voit des choses qui nous le montrent, qui nous le démontrent. Début juin 2025, on apprenait aux nouvelles qu'il y avait eu une séparation marquante entre Elon Musk puis le président des États-Unis. Ces deux amis-là, je dis ça amis entre parenthèses, mais ces deux-là sont passés d'amis à ennemis. Les différentes guerres qui se passent à travers la planète nous montrent aussi, nous confirment cette réalité-là. On a juste à penser aux Russes puis aux Ukrainiens. En passant, priez pour ça, ces choses-là, parce que Dieu qui a le pouvoir de diriger les têtes dirigeantes de ce monde-là, mais qui fasse comprendre le bon sens à des gens qui n'ont pas de sens. En tout cas, les différentes guerres russes, ukrainiennes, palestiniennes puis juifs, ça nous confirme encore cette réalité-là qu'entre les êtres humains, la relation entre eux, c'est quelque chose d'assez compliqué. Souvent, on entend dire aussi qu'il y a eu séparation entre conjoints, ce qui cause des choses assez abominables pour les enfants, tout ça. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, là, quand on remonte à leurs enfances, bien souvent, ils ont eu des enfances tout proches, tu sais. Le père ou la mère est parti, puis tout ça, là. Enfin. Il y a aussi les désaccords qui peuvent prendre place dans les familles. Juste à prendre la période de questions, c'est au Parlement. Des fois, ça n'est drôle, mais on voit bien qu'il suffit que le Parlement soit en place, vote des lois, puis ceux qui sont dans l'opposition disent que ça n'a pas de bon sens, puis ça chienne. Puis dans la période de mes questions, on le voit bien. Puis il y a un paquet d'exemples comme ça que je pourrais vous citer. Alors, quand on regarde tout ça, ça nous aide à réaliser à quel point le Seigneur Jésus est puissant, lui, pour réussir à rassembler toutes sortes de personnes avec des différents backgrounds dans des églises chrétiennes. Vous n'avez pas été élevé comme moi. Moi, je suis issu d'une petite famille. Le premier, l'aîné de la famille, diabétique. Alors, tout chez nous virait autour de ma personne. Quand on arrive dans le monde chrétien, ben on a de la misère avec ça. T'sais, on a tendance à penser que tout va virer en fonction de ta personne. Alors que c'est pas ça pantoute. Là. Alors, le Seigneur, il est tout puissant pour réussir à garder différentes personnalités unies au sein de l'Église. Compte tenu, en plus, que Satan va utiliser tous les moyens à sa disposition pour semer le trouble au sein des Églises. Là où le diable travaille, c'est là où il y a des chrétiens. Parce que dans le monde, il n'y a pas des gros efforts à faire, c'est à lui. Les gens qui appartiennent au monde, c'est à lui. Fait qu'il n'y a pas gros. Mais dans le milieu chrétien, s'il est capable de mettre la bisbille dans ça, il va essayer de le faire. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? À travers la chair non rachetée des hommes. La chair, la vieille nature, le vieil homme, ça, c'est tous des synonymes qui représentent un des puissants ennemis du méchrétien. La chair. Ça, c'est un des ennemis du méchrétien. Les deux autres, que vous les connaissez, il y a la chair, le monde et Satan. Ça, c'est les trois ennemis du méchrétien. Et puis, Dieu a supprimé ni un ni l'autre. Dieu n'a pas enlevé le monde. Il n'a pas annulé le travail du diable encore. Puis la chair, on a encore à se battre avec à tous les jours. Alors, Dieu n'a pas supprimé un et l'autre. Même l'apôtre Jean disait, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, dans 1 Jean 2,16. Alors, Dieu n'a peut-être pas éliminé ces ennemis-là, mais il nous a quand même donné la victoire sur eux en nous donnant son Saint-Esprit. Je vais vous lire un passage dans Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. On lit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ils sont opposés entre eux. C'est la raison pourquoi, bien souvent, on doit lutter contre les choses du monde, comme Jean-Marc il nous disait tantôt. Quand on arrête de venir à l'Église pendant quelques jours, ou bien quelques semaines pour différentes raisons, on se rend compte que le monde a une attirance sur nous. Quand Suzanne et moi, on allait travailler au Camp Brochet pour une semaine, au Camp Brochet, tu n'as pas de télévision, tu n'as pas de radio, tu ne sais pas ce qui se passe là, que dans le monde. Tu sors du Camp Brochet, bien souvent, tu arrêtes au dépanneur parce que tu vas acheter des affaires. Puis là, tu te rends compte, oh, c'est vrai, il y a des annonces de bière, il y a des filles en bikini posées pour annoncer des toutes sortes d'affaires. Là, tu te dis, on n'est plus au 15. Là. On est revenu dans le monde. Puis on vit dans le monde. Alors, il faut vraiment qu'on lutte puis qu'on soit attaché à ce que Dieu, c'est qu'il nous demande. Alors, c'est évident que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit, qui, lui, est le seul qui peut donner la force de marcher puis de plaire à Dieu. Quand on a lu tantôt de marcher dans Galates 5,16, marcher selon l'Esprit, l'impératif marcher, ça implique une action qui est continuelle. Continuer de marcher jour après jour. Pas juste de donner un coup, là, ou bien sprint, puis on arrête après. C'est une marche continuelle. Puis, on est appelé aussi à progresser en obéissant au commandement de l'Écriture. Si on ne marche pas de cette façon-là, on ne peut pas dire qu'on marche selon l'Esprit. Parce que marcher selon l'Esprit, c'est continuel, puis c'est une vie d'obéissance à ce que Dieu nous demande. OK, alors au fur et à mesure qu'on va progresser dans la vie chrétienne, on va développer inévitablement des convictions ou des assurances, des certitudes. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est face à toutes ces croyances-là, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre des convictions différentes des nôtres? Parce que ça peut arriver, ça. Parce que pensez-y comme il faut aussi, toutes les divisions qui ont pris place dans les églises sont toutes issues de l'attitude qu'on a développée vis-à-vis celui qui ne pense pas comme moi. C'est de la plus haute importance. Puis le titre de notre message là, ce matin, c'est ça. Conviction et tolérance. Jusqu'où je peux tolérer une conviction qui est différente de la mienne? Puis est-ce que je dois tolérer aussi? Tournez avec moi dans Acte 15. Acte chapitre 15, au verset 1. On lit, « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors là, on est à Antioche. Là. On est à peu près à 480 km de Jérusalem. parce qu'en ce temps-là, les voyages, ça se faisait à pied. Donc, partir d'Antioche pour se rendre à Jérusalem, 480 km, dépendant de la vitesse que tu marchais, ça pourrait prendre quelques jours, en tout cas, pour se rendre là. Alors, Paul puis Barnabas, ils ont terminé leur premier voyage missionnaire, puis ils sont revenus à leur église, c'est-à-dire à l'église d'Antioche. Puis là, il y a des visiteurs qui sont venus de la Judée, qui arrivent, puis qui commencent à répandre la doctrine du salut par les œuvres. Alors, c'est pas surprenant d'avoir Paul puis Barnabas qui prennent position contre cette fausse doctrine-là. Parce que eux autres, tout au long de leur premier voyage, les deux avaient annoncé ce qu'on lit dans Actes 13, 39. Paul puis Barnabas disaient: quiconque croit est justifié par Jésus-Christ de toutes les choses dont on ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. Alors ça, c'était leur message lors de leur premier voyage missionnaire. Paul puis Barnabas, c'est ça qu'ils disaient. Celui qui croit est justifié par Christ de toutes les œuvres dont on ne pouvait pas être justifié par la loi. Exactement le contraire de ce qu'enseignaient les visiteurs qui étaient venus de la Judée, qui eux disaient que pour être sauvé, il fallait être circoncis. Donc, c'est les choses de la loi. C'était exactement le contraire. Alors, la question était de la plus haute importance. Assez que les dirigeants de l'église d'Antioche y ont envoyé une délégation à Jérusalem, 480 km plus loin, pour éclairer cette affaire-là. Parce qu'il faut comprendre qu'en ce temps-là, Jérusalem, c'était le quartier général de la foi chrétienne. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait établi les apôtres. Les apôtres étaient tous demeurés à Jérusalem. S'il y avait un problème, il fallait que tu aies au quartier général, que tu t'informes aux apôtres qui étaient les gardiens de la foi. En ce temps-là, là, on parle de la première église. Alors, Actes 15, 6, c'est écrit: les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors là, on a le concile de Jérusalem. C'était important. Il fallait qu'on traite de la question à savoir, faut-tu encore faire les œuvres de la loi pour être sauvé ou si la foi uniquement, c'est assez? Il fallait qu'ils tranchent ça. Alors, Pierre est le premier qui va se lever au verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit. Puis finalement, ce que Pierre il va raconter, c'est qu'il va expliquer ce qui s'est passé lorsque lui, dans Actes 10, il est allé voir Corneille. Corneille, c'était qui, lui? C'est un centenier romain. C'est un non-juif. Alors, il s'en va dans sa maison. Puis là, il se met à parler du Seigneur Jésus-Christ, de la foi qui sauve, puis tout ça. Puis à la fin de son discours chez Corneille, Pierre, il se rend compte que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là, puis qui écoutaient. Alors Pierre, il y a comme une révélation. Hein? C'est pas des Juifs, eux autres-là. Là. C'est des non-Juifs. Puis ils ont tous reçu Saint-Esprit. Puis il n'y avait personne dans cette maison-là qui avait eu besoin de passer par la circoncision pour recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Alors, c'est ça que Pierre est en train de raconter dans le premier discours du Concile de Jérusalem. Respecter la loi, ça l'a plus loin que ça, le salut. Parce que le respect de la loi, c'était pas assez, ça. Pour la simple et bonne raison que personne n'est capable de respecter la loi dans son entité, dans sa personne. Alors, Pierre va terminer son exposé à Jérusalem en disant aux hommes qui sont venus de la Judée, au verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Eux, ça, c'est les non-juifs. C'est la gang qui était chez à McCormick. Alors, Pierre, il vient de donner son exposé à savoir que oui, les non-juifs qui ne respectaient pas la loi parce qu'ils ne la connaissaient pas, ils ont reçu le Saint-Esprit, donc ils sont sauvés, c'est quelque chose aussi. Après ça, le deuxième discours du Concile de Jérusalem, c'est Paul et Barnabas qui le tiennent, au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Alors, Paul et Barnabas sont en train de dire tout ce qui s'est passé pendant leur premier voyage missionnaire, voyage qu'on est capable de retracer dans Actes 13 et Actes 14. Quand vous lisez Actes 13 et Actes 14, vous voyez tout ce qui s'est passé pendant le premier voyage de Paul. Ensuite, le troisième discours du Concile de Jérusalem, on le voit au verset 13. Lorsque Paul et Barnabas ont eu cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. » Alors, Jacques ici, qui était un des responsables de l'Église de Jérusalem, il va prendre une parole, puis il va aller dans le même sens que les deux autres plaidoiries avant lui, c'est-à-dire celui de Pierre, celui de Paul et de Barnabas. Il va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il va parler en faveur du salut par grâce. Le salut par grâce. C'est un sujet sur lequel il n'y a aucun compromis à faire. Je vous ai compté, hein? C'est un mercredi. Deux madames qui arrivent chez nous. Là, j'ai vu vite que c'était des témoins de Jéhovah. Puis là, elle commence parce que les autres, ils sont habiles, hein? Il te pose une question comme pour essayer de t'embêter, te mettre des bâtons dans les roues. Alors, je lui dis, regardez, avant de répondre à votre question, j'en ai une, moi, pour vous. Vous me répondrez à mes salles-là. J'ai demandé, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Elle m'a tout de suite dit, honnêtement, puis selon ses convictions, elle dit non. Et j'ai dit, madame, on n'a plus rien d'autre à dire. Parce que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, le salut qu'il a fait à la croix, ça sert à rien, puis moi, je suis toujours pas sauvé. Alors, ça donne à rien d'aller plus loin que ça. Vous ne croyez pas ce que je crois. Et le salut par grâce, aucun compromis à faire ça. J'aurais pu m'asseoir avec la madame sur mon balcon, puis jaser trois quarts d'heure avec elle. Elle serait partie de son bord, puis elle n'aurait pas plus cru. Alors, j'ai rien d'autre à... Tu crois pas à la chose la plus essentielle du salut. C'est-à-dire qu'on peut être sauvé par la foi uniquement au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie étant Dieu pour les hommes, pour les pécheurs qu'on est. Alors, le salut par grâce a toujours été un acte de grâce que Dieu a fait vis-à-vis des pécheurs. Pendant leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont visité l'immense région de la Galatie, qui aujourd'hui correspond à la Turquie actuelle. Puis, c'était avant le Concile de Jérusalem. Puis, regardez ce que Paul et Barnabas ont dit aux Galates. On lit ça dans Galates, chapitre 2, verset 6. Galates 2, 6. Tout au long de ces différents voyages, Paul répétait cette vérité qu'on ne peut pas argumenter. Galates 2, j'ai dit Galates 2, 6 et Galates 2, 5, excusez-moi. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Le message était clair, c'était même pas discutable, ça, cette affaire-là. Alors, Jacques, quand il a terminer son discours, il va présenter une décision pratique en disant que l'Église ne devait pas créer d'ennui aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs qui intégraient les rangs de l'Église. Alors, il y avait des non-juifs au début de l'Église primitive qui entraient, parce que là, c'était plus des synagogues, là. Les juifs qui se convertissaient n'allaient plus à la synagogue parce que, un, ils se seraient fait mis dehors à ses rênes. Mais il y avait des milieux où ce qui se réunissait. Alors, Jean qui dit dans Acte 15, verset 19, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Chose que les Juifs avaient appris dans la loi. Suivez-moi bien, là. C'est des affaires qu'eux, ils avaient appris, qu'ils avaient toujours appris dans la loi. Maintenant, avec ce que Jacques vient de dire, est-ce qu'il n'est pas en train justement de les remettre dans la loi? Ben, la réponse, c'est que cet avis-là n'a rien à voir avec le sujet du salut. Cette question-là avait déjà été réglée lorsque Pierre s'est levé pour parler. Paul et Barnabas qui se sont levés pour dire les mêmes choses. Puis Jacques qui a confirmé la même chose aussi. On est sauvé par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Point final. Mais alors, pourquoi est-ce que Jacques est en train de dire, moi, je suis bien d'avis qu'on ne crée pas de difficultés aux non-juifs qui vont se convertir, mais qu'on écrive aux non-juifs de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Alors, cette question-là, là, c'est juste pour mettre en fonction la communion entre croyants juifs et non-juifs. Jacques puis les anciens, ils ne souhaitaient pas que les païens profitent de manière excessive de leur liberté en Christ, au risque de conduire les croyants juifs à prendre les mêmes libertés et souiller leur conscience. Alors là, Jacques, il veut juste que les gens fassent attention. Ne scandalisez pas les juifs. Puis, lorsqu'on lit au verset 21, ce que Jacques il dit, car depuis, dans Acte 15, 21, il dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qu'il prêche, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, ce verset-là est en train de donner la raison pourquoi Jacques a donné le conseil du verset 20. Il y avait des Juifs dans plusieurs villes qui avaient toujours été enseignés que c'était mal de faire ce qui est écrit au verset 20. C'est-à-dire, c'était mal de commettre la débauche. C'était aussi mal de manger de la nourriture offerte aux idoles. C'était mal de manger des animaux étouffés et du sang. Les Juifs avaient toujours grandi avec cette mentalité-là et cet enseignement-là. Et lorsqu'ils sont venus au Seigneur, pensez-vous que ça a disparu, ça, là? C'était resté ancré dans leur mentalité. Les Juifs comprenaient qu'on pourrait être sauvé, tu n'avais plus besoin de ça. Mais il y en a qui sont comme pas capables de se débarrasser de ce qui les a élevés, c'est ce que je dirais, ce qui les a mis au monde. Alors, pourquoi les gentils ou les non-juifs devraient-ils offenser Dieu en commettant l'immoralité ou offenser l'homme en faisant d'autres choses? C'est un petit peu le conseil que Jacques voulait donner aux non-juifs qui allaient intégrer l'Église. Maintenant, tournez dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il faut toujours se mettre dans la tête, dans le contexte qu'on est dans l'Église, on est au début de l'Église primitive, où il y a un mix de nouveaux chrétiens. Il y en a qui sont juifs, il y en a qui ne sont pas juifs, il y en a qui viennent d'ailleurs, avec des mentalités différentes. Puis là, on met tout ça dans la même Église. Imaginez-vous ici qu'on serait 6-7 nationalités différentes. qu'on le veuille ou non, là, s'il y aurait des Noirs, des Asiatiques, des Arabes, des Hindous, des ci, des ça, qui viennent tous au Seigneur, puis qui ont tous cru au salut par grâce. Mais il y aurait peut-être quelques petits accrochages à un moment donné dans l'interprétation de certains passages. Regardez ce qu'on lit dans, justement, 1 Corinthiens 10, verset 23. Paul, il dit aux Corinthiens, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. » À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Alors, quand Paul il dit que tout est permis, puis qu'il dit au verset 25 qu'on peut manger de tout ce qui se vend au marché, ben, il est où le problème? Il est où le problème? La chose, c'est qu'il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté non plus, mais il y a des principes dans la liberté chrétienne. Des principes qui se doivent d'être respectés. Le chrétien est appelé à vivre avec un sens moral. Ce que je veux dire par là, c'est que il doit viser l'édification plutôt que la satisfaction personnelle. Verset 23 nous dit « Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Verset 24 « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Puis dans l'Épître aux Philippiens, Paul y répète exactement la même chose. Dans Philippiens 2, 4, il dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est le principe de la liberté chrétienne qui prime. Les autres plutôt que moi-même. Puis pensez-y comme faux, là. Chaque fois qu'il y a eu une division dans une église, est-ce que c'est les autres qui primaient ou si c'était ma façon de penser? Là, je ne parle pas du salut par grâce, là. Pas en train de vous parler que ben, toi, tu penses qu'on est sauvé par les œuvres. Moi, je pense qu'on est sauvé par la grâce. On a tous les deux raisons. C'est pas ça, là, l'idée. Il y a des affaires inflexibles. Mais il y a d'autres sujets qui peuvent prêter à ma confusion. Alors, le principe de la liberté chrétienne va mettre de l'avant, va considérer l'autre, en tout cas. Puis, Paul renchérit son argument dans 1 Corinthiens 10, 29 quand il dit « Je parle ici non de votre conscience. » Mais de quelle conscience qu'il parle? De celle de l'autre. Si tu considères l'autre, peut-être ça va éviter un paquet de problèmes, un paquet de divisions, en notant que vous ne soyez pas divisé sur le salut. Si vous pensez toutes la même affaire pour le salut, qu'on est tous sauvés par grâce, moyennant la foi en Jésus-Christ, il est où le problème? Le problème, c'est nous autres qui le fait. C'est nous autres qui le crée. Parce que, tu ne penses pas comme moi, puis parce que tu ne penses pas comme moi, tu as tort. Bon, ça, on va voir tantôt un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on voit. Alors, comme je vous disais, en autant que la question du salut n'est pas affectée, comment est-ce que je vais réagir face à une conscience plus fragile ou face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que moi? Et je vous le dis, année après année, c'est tout le temps les mêmes affaires dans les églises. Il y en a qui se... Il y a des églises avec des... Il pouvait être 250, puis tout d'un coup, il se passe de quoi? Il y en a 100 qui poignent un bord, puis 150 qui poignent l'autre. Puis ils sont tous d'accord, puis ils sont sauvés par la grâce. Ça, c'est quoi?
C'est l'œuvre de l'ennemi qui travaille à travers une chair qui n'est pas rachetée. 1 Corinthiens 8. Tournez-là si vous voulez. Ça répond un petit peu à la question que je posais, à savoir comment est-ce que je réagis face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que moi. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La difficulté avec les viandes sacrifiées aux idoles en 2025, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui a de la misère avec ça. Ce n'est même pas un sujet de division aujourd'hui au sein de l'Église évangélique. Mais dans le temps de Paul, il y avait des Romains et il y avait des Grecs qui, eux, croyaient à un paquet de dieux et qui croyaient aussi qu'il y avait un paquet d'esprits qui étaient mauvais. Puis ils croyaient que ces esprits-là essayaient de s'introduire dans les êtres humains en s'attachant à la nourriture quand elle était mangée. C'est ça qu'eux croyaient. Alors, pour eux autres, offrir cette nourriture-là en sacrifice aux dieux, c'était le seul moyen dans leur esprit de faire en sorte qu'ils ne soient pas au pouvoir des démons. Quand ils disaient cette viande-là a été sacrifiée aux idoles, mangeant pas, ou mangeant, dépendant de la croyance. Mais ça servait à gagner la faveur des dieux puis purifier les aliments de toute contamination démoniaque. Aujourd'hui, là, on n'a pas assez ça, nous autres. On est bien plus spirituels que ça, nous autres, aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Comment?
Une société évoluée.
On est une société évoluée. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce temps-là, c'était ça pareil. On croyait ça. Alors, il y en a qui croyaient ça, puis il y en a qui ne croyaient pas ça, puis ils joignaient un groupe de gens qui croyaient ça. Alors, imaginez-vous un petit peu le scénario. Alors, tout ce qui n'avait pas été brûlé sur l'autel était servi pendant les fêtes païennes, puis le reste était vendu au marché. Mais après leur conversion, il y avait certains nouveaux croyants qui étaient défavorables à consommer ces aliments-là. Ils faisaient encore le lien entre leur vie païenne passée puis le culte des démons. Ça les empêchait de manger cette nourriture-là sans éprouver un sentiment de culpabilité. Regardez si on continue à lire dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois, puis ça c'est le verset clé, que votre liberté ne vienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Le but, c'est de ne pas scandaliser l'autre. Alors, ce qui caractérise les gens sages, c'est l'équilibre qu'ils ont dans leur conduite. On lit dans Acte 16, je vais passer assez rapidement sur ça, mais Acte 16, On voit, ben, je peux le lire, là. Il se rendit, il est question de Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, est-ce que Timothée avait besoin d'être circoncis pour être sauvé?
Non.
Ben non. Mais pourquoi qu'il l'a circoncis? Pour que ce soit beaucoup plus facile d'avoir un ministère parmi les Juifs et qu'il puisse entrer dans les synagogues. Parce que c'est là que les Juifs sont. C'est là, si tu veux aller témoigner, c'est là qu'il faut que tu rentres. Alors, Paul, en circoncisant Timothée, qui n'avait pas besoin de l'être, mais s'il ne l'est pas, il ne peut pas avoir un travail au sein des Juifs. C'est juste du bon sens puis de la logique. Tournez maintenant dans Romains 14. Romains chapitre 14, verset que vous avez tous déjà lu, que vous connaissez probablement très bien. Romains 14, verset 1, on lit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. » Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu a accueilli aussi bien un comme l'autre. Et verset 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affirmer. » Accueillez celui qui est faible dans la foi. Là, ici, il faut être prudent. Là. Quand on lit « faible dans la foi », moi, je vous dirais, qui est faible dans la foi et qui est fort? Qui est faible dans la foi et qui est fort? Que celui qui est fort ici lève vers la main. On est tous faibles dans certains domaines et forts dans d'autres. Il ne faut pas interpréter ça comme quelqu'un qui a une foi qui est mauvaise ou défaillante. C'est plutôt une caractéristique de croyants qui sont incapables de se séparer de cérémonies, de coutumes ou d'habitudes qu'ils avaient dans leur passé. Ils ont une difficulté épouvantable de se débarrasser de certaines choses. C'est eux, ça. Ils sont faits comme ça, il faut respecter ça. Toujours en autant que le salut soit, il n'ait pas été altéré. Le salut par grâce, par la foi. S'ils pensent ça, le restant, là, vas-y, mollo. Il y en a qui se sentent obligés de respecter certaines exigences sous prétexte que c'est mieux pour eux. Puis, il faut comprendre aussi que ce n'est pas les chrétiens qui sont tous au même niveau de maturité spirituelle. On a tous des arrière-plans différents qui peuvent influencer nos attitudes puis nos actes. Mais lorsqu'on lit Romains 14, la leçon qu'il faut qu'on en tire, c'est qu'on ne doit pas juger les autres à cause de leur différence d'opinion. Ce qui compte, c'est le verset 4. C'est la manière dont le Seigneur évalue chaque croyant. C'est la manière dont lui évalue les croyants et non mon évaluation à moi. Puis le chapitre 14 de Romains traite aussi des principes importants pour guider le peuple de Dieu à agir envers des sujets qui sont, je dirais, de moindre importance, mais qui sont quand même des points qu'il faut qu'ils soient traités avec sérieux, avec dignité, avec tact, puis avec sagesse. Ce n'est pas parce qu'un ne pense pas comme moi qu'il faut que je le considère comme étant un deux de pique. Vous me suivez? Hein? OK. Exemple, puis ça c'est vrai, là. J'ai connu d'anciens alcooliques qui sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui m'avait dit qui avait été complètement délivré de cet esclavage-là à la conversion, en sorte qu'il pouvait prendre un verre de vin sans que ça le dérange. Un autre pour lui, c'était une occasion de chute. Même de voir une coupe de vin capotelle. Alors, comment vous allez réagir face à ce dernier frère, à ce dernier frère-là? Est-ce que vous allez dire, bon, écoute bien, si c'est un problème pour lui, là, ça ne l'est pas pour moi. Ou est-ce que vous allez agir, comme on lit dans Romains 14, 13, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Une pierre d'achoppement, c'est tout ce que fait un croyant, même si l'Écriture le permet, mais qui peut entraîner un autre à des problèmes, qui va entraîner une personne à tomber dans le péché. Puis vous avez tous déjà connu des cas de même. Si ce n'est pas au niveau de la boisson, ça peut être au niveau de l'habillement. Moi, j'avais déjà entendu quelqu'un dire hey, « Allez à l'église en jean, c'est comme péché, cela. » Mais non, mais c'était dans la pensée du monde. Puis il y en a d'autres qui disent, tu sais. Mais comprenez-vous que le moindre sujet peut être un sujet de discorde, là, épouvantable, pour des détails. Mais c'est comme ça que l'être humain est. Et on se doit d'user de sagesse, puis je le répète tout le temps, en autant que la question du salut n'est pas altérée. Le restant, là, bientôt, parlons-nous, essayons de comprendre, puis c'est peut-être pas tout le monde qui peut s'habiller à la fine pointe de la technologie, puis tiens bien, là. Il faut être capable de comprendre ça aussi. Mais si on vient à notre dernier point, là, tantôt, là, les boissons alcoolisées, la Bible donne des indications claires sur ça. Entre autres, quand on lit dans Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18, on lit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Alors, on peut-tu comprendre que celui qui est contre le vin, il va vous sortir ça d'en face, là? Proverbe 20, verset 1. Le vin est que moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ou bruyantes, selon la version seconde 21, ou remplies de métapages, selon la version sommaire. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Alors, le message à retenir ici, c'est que la consommation de boissons alcoolisées, ce n'est pas condamné dans la Bible. Si c'était le cas, pensez-y deux secondes. Pensez-vous que le Seigneur Jésus-Christ aurait changé de l'eau en vin à Cana si la Bible nous défend de boire du vin? C'est juste une question de bon sens. Si le Seigneur, si dans les enseignements de la Bible, c'était « ne buvez pas de vin », c'est défendu. Jésus aurait fait du vin en transformant de l'eau. Ben là, tu sais, on a une tête, servons-nous-en. Ce qui est condamné, par exemple, c'est l'ivresse. Parce que quand tu bois du vin, si tu en bois trop, tu sais ce qui va arriver. Ésaïe avait fait c'est une allusion à ça. Ésaïe, chapitre 28, verset 7. Il dit, il parle des chefs que religieux. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont égarés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Puis si on continue, je n'irai pas trop loin, mais verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Ça, on parle d'un gars qui est sous. Alors, ça, c'est défendu, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelle attitude que le chrétien doit avoir? Si vous allez dans des noces puis qu'il y a du vin, le vin, c'est une source de joie. Ce n'est pas une source pour en boire assez, qu'on va être malade et qu'on va ramper à terre. Et moi, quand mes enfants sont mariés, il y avait du vin, puis on a bu, puis on était heureux pour eux autres. Mais à ma connaissance, il n'y a personne qui est sorti de dessous. Alors, il y a beaucoup de matières dans les Écritures qui sont rattachées à des convictions personnelles. Je ne les nommerai pas toutes, parce qu'il y en a un méchant paquet. Mais on doit tous se dire de faire ce qu'on lit dans Romains 14, 1, c'est-à-dire d'accueillir. Accueillir, ça, c'est une acceptation personnelle et ne discutez pas des opinions en vue de se quereller. On ne doit pas argumenter dans le but de faire changer le point de vue de l'autre. Parce que rappelons-nous une chose qui est capitale au début de l'Église primitive, c'était la communion fraternelle qui devait être gardée. Les chrétiens peuvent avoir une excellente communion fraternelle sans avoir à être d'accord sur les points non essentiels, c'est-à-dire ceux qui ne concernent pas le salut. Je répète, les chrétiens peuvent avoir une excellente communion fraternelle sans être obligés d'être d'accord sur tous les points non essentiels. Connaissez-vous la prière de la sérénité? La prière des AA. Là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais c'est pas une prière biblique, ça. » C'est peut-être pas une prière biblique qu'on voit dans la Bible, mais je trouve qu'elle fait du sens pareil. Ça dit, Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. La sagesse de connaître la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Alors que le Seigneur nous accorde la sagesse d'user de tolérance dans nos convictions. Prions. Oui, notre Dieu et Père, encore une fois, on est tellement heureux de pouvoir plonger les regards dans ta sainte parole pour qu'on puisse suivre ce que tu nous indiques à travers celle-ci. Merci, ô Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta patience, pour ta tolérance envers tous nos manquements. Et on veut apprendre, ô Dieu, à travers les écrits, à vivre une vie qui va manifester, qui va élever ton nom. Parce qu'on te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.